Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons notre série d'émissions sur les vertus et les vices, sur notre vie chrétienne dans l'esprit avec le Christ à la suite de notre Maître Jésus-Christ. Après l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure et la gloutonnerie, nous arrivons au dernier vice capital, la paresse, ou plutôt la sédie. Commençons par un peu d'histoire. Quand on a commencé à dresser des listes des vices, on y mettait un vice nommé asédie, qui veut dire en grec « ne pas prendre soin »,« négliger ». Étymologiquement, ça veut dire cela. Quand les langues ont évolué, ce mot n'était plus compris par la plupart des peuples parlant une langue néo-latine, français, italien, espagnol, portugais. Petit à petit, on l'a donc remplacé par le mot « paresse », dont la racine vient plutôt du verbe « s'énerver » ou « être ennuyé par quelque chose ». Nous avons un témoignage d'ailleurs très curieux de ce qu'au XIIIe siècle déjà, ce passage d'assédie à paresse était en train de se faire. En effet, dans « La Somme, le roi » de Laurent d'Orléans, en 1279, dans sa liste des vices, il écrit « la paresse, que l'on appelle en clergeois, l'assédie ». Intéressant, clergeois, ça veut dire la langue du clergé, la langue savante de l'époque. Il est en train de nous dire que ce que dans la langue des prêtres, la langue savante, on dit assédie, nous connaissons comme la paresse. Donc déjà, à cette époque, on commençait à faire le passage. Le problème, c'est que, comme nous avons vu pour d'autres vices, la gourmandise notamment, le mot paresse, aujourd'hui, a perdu son sens fort et est devenu synonyme d'avoir la flemme, comme disent les jeunes. Pour cela, nous préférons le mot « assédie » pour appeler ce vice capital, en communion avec la plupart des commentateurs de spiritualité d'ailleurs. D'autre part, dans la présentation des vices capitaux, nous avions dit dans la première émission sur l'orgueil que l'on en comptait 8 au départ. On parlait des 8 pensées mauvaises, tendances mauvaises, et ensuite on a commencé à parler des 7 péchés capitaux. Et donc la tristesse qui était au départ dans cette liste, a été absorbée par l'envie, d'une part, nous l'avons déjà vu quand nous avons abordé l'envie, et d'autre part, la tristesse a été reprise à l'intérieur de l'assédie. On dira donc un mot sur la tristesse dans ce contexte vers la fin de l'émission. Alors donc, une fois que nous avons expliqué pourquoi désormais nous appellerons ce vice non pas paresse mais assédie, qui donne un sens plus fort, plus complet, nous pouvons essayer de le définir. Donc, une définition possible serait que l'assédie est ne pas faire ce que l'on doit faire au moment où on doit le faire, de la manière dont on doit le faire. Vous voyez que je souligne 3 choses. Ne pas faire ce que l'on doit faire, l'objet. Ensuite, au moment où on doit le faire. Et troisièmement, la manière dont on doit le faire. Pensez à un exemple classique du devoir maison. Je pense que notre âme d'écolier le comprend tout de suite. Le devoir maison. On peut ne pas le faire du tout. Disons, nos parents nous ont dit il faut que tu fasses tes devoirs. Et on va jouer, on va faire autre chose. Et à la fin, on ne les a pas faits. Donc ça, c'est de la sédie. Mais on peut aussi les faire, mais les faire trop tard, en soirée, car on a passé le temps libre à jouer, et donc on l'a laissé en fin de soirée, et donc évidemment on n'a pas fait au moment où on devait le faire. Ou alors, troisièmement, on peut le bâcler, comme on dit, c'est-à-dire on peut le faire vite, sans attention. Un autre exemple, pour une vie plus religieuse, disons, dans un séminaire, donc la formation des séminaristes qui vont devenir prêtres, les supérieurs rappellent que faire l'adoration à l'heure où on doit faire le ménage de la maison, où on doit étudier pour les examens, pourrait aussi être de la sédie. Comment ? Mais l'adoration, c'est une bonne chose. La prière, c'est une bonne chose. Mais bien sûr, la prière est essentielle. Mais nous avons d'autres choses aussi, des devoirs d'État, de choses qu'on doit faire. Et on ne peut pas se réfugier dans la prière pour ne pas nettoyer sa maison ou pour ne pas étudier pour l'examen, par exemple. Tout en mettant des priorités, bien évidemment. On ne manque pas la messe du dimanche pour étudier. On aurait un autre moment pour étudier. La messe est plus importante. Vous voyez, donc, il y a toujours une hiérarchie qu'il faut trouver là-dedans, qui est très difficile. Le discernement nous aidera, comme nous le savons, c'est la vertu propre du chrétien, cette prudence, ce discernement. Alors, en continuant à parler de la Cédille, dans le monde monastique, on l'appelle aussi le démon de midi. Vous savez, c'est ce démon de midi, celui qui te fait croire que la journée ne va jamais finir, que le temps ne passe pas, que tout est insupportable et qu'il faut fuir d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, dans le langage familier, quand on dit le démon de midi pour un homme déjà d'une cinquantaine qui se sent tenté d'aller avec une femme plus jeune que lui, ça veut dire ça, c'est-à-dire l'envie de changer son histoire. Je ne suis pas content là où je suis, ce qui se passe chez moi, ce que j'ai, et donc il faut que je change, il faut que je prenne la fuite. Voilà le démon de midi. Ce que la Cédille n'est pas forcément, donc, ce n'est pas forcément vouloir se reposer. Pour ça, je n'ai pas voulu utiliser le terme paresse ou la flemme. Ce n'est pas la petite flemme de faire quelque chose de compliqué ou coûteux. Non, cela peut être juste le signe de la fatigue, plus ou moins grande, plus ou moins accumulée. Ou alors, ça peut venir du fait que tu te sens dépassé par les événements et la réaction presque spontanée est de rester bloqué. Donc la chose à faire, à réaliser, te semble tellement grande, tellement compliquée, qui te dépasse, et donc ta réaction est de rester bloquée. Ça, c'est pas la Cédille, ça c'est autre chose, il faut voir comment aider, etc. Donc c'est pas la petite flemme ou de faire quelque chose qui semble coûteux. Regardons maintenant les manifestations classiques de la Cédille. On compte 4 manifestations classiques de la Cédille, connues sous leur nom latin. Je ne vais pas utiliser des mots savants, mais elles sont connues selon leur mot latin. Tristitia, tedium, fastidium, tepiditas. Autrement dit, la tristesse, l'ennui ou la lassitude, le dégoût et la tiédeur. Tristesse, ennui, dégoût, tiédeur. Regardons un peu en détail. Donc, la Cédille peut se manifester par l'indifférence vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des événements. Ça ne me fait ni chaud ni froid, comme on dit. Ce qui amène à en laisser aller dans tous les domaines. On se laisse aller. La procrastination aussi. Du latin, crasse veut dire demain. Donc, procrasse pour demain. Je laisse tout laisser pour le lendemain. La négligence des devoirs et des choses importantes à faire. C'est une manifestation d'Acédie. Être toujours blasé, engourdi, anesthésié. Ou bien, regardez comme ça peut être des choses vraiment contraires, une rébellion par rapport à l'état actuel des choses. Fuir l'histoire. On n'est jamais là où on doit être, le moment où on doit l'être. C'est chez les cours, par exemple, chez les jeunes, ou faire toujours autre chose alors que l'on doit travailler. Ce n'est pas ne rien faire. Parfois, ça se manifeste, on fait beaucoup de choses, mais on ne fait pas ce qu'on doit faire à ces moments-là. On fuit, vous voyez ? Ou alors, le dégoût pour la vie actuelle, sa femme, son mari, ses enfants, son travail, ses études, etc., qui peut amener au désir du changement constant, de l'instabilité. On change de femme et de travail sans arrêt. Surtout le dégoût pour la prière et les choses spirituelles. Ça, c'est la marque de la Cédille quand elle a été formulée chez les moines, non, dans une vie monastique. C'est le dégoût pour la prière et les choses spirituelles. Le manque de soins pour soi-même, pour sa vie intérieure. La médiocrité, donc la tiédeur, comme je disais tout à l'heure. La médiocrité, c'est-à-dire faire tout au minimum. Ce que je dois faire, mais vraiment sans plus. Au fond, mes frères, le mot-clé derrière tout cela est vraiment l'ennui. Je m'ennuie et donc je pêche par acédie, je tombe dans les vices de l'acédie. Or, la plupart du temps, l'ennui vient de l'oisiveté, d'un temps non occupé. Et la sagesse populaire, je pense que celui qui a un peu plus de sagesse ou d'âge se rappelleront, la sagesse populaire enseigne déjà à propos de l'oisiveté, un esprit oisif est l'atelier du diable. Ou alors, l'oisiveté est la mère de tous les vices, disait-on autrefois. D'où l'importance de s'occuper toujours. Rappelons-nous la devise du moine depuis Saint Benoît au VIe siècle. Ora et labora, prie et travaille. Les moines et les moniales dans les couvents, cloîtrés, en dehors des heures consacrées à la prière et à la lecture, sont toujours au travail. Le jardin, la broderie, le nettoyage, la cuisine, les différents ateliers. Il y en a qui font du miel, il y en a qui font du savon, il y a tellement de choses. En plus de s'occuper, on a tous besoin d'une certaine stabilité. Je veux bien qu'on s'occupe un jour ou un après-midi. S'il n'y a pas de stabilité, l'assédie peut glisser aussi. Donc même les médecins disent souvent qu'il nous faut une routine, un cadre, qu'il faut s'occuper évidemment selon les moyens ou l'état de santé de chacun. On ne peut pas s'occuper de la même façon. Mais il nous faut une routine, un cadre de vie, une stabilité. Vous voyez, c'est très sain pour notre corps, pour notre esprit. Pour certains, je ne sais pas si vous en connaissez, mais pour certains, plus ils dorment, plus ils ont sommeil. Plus ils se reposent, plus ils sont fatigués. Essayez à la fin d'une journée sans rien faire pour voir si tu es fatigué aussi. C'est un cercle justement vicieux. Pour cela, on vise, vicieux. Nous savons qu'il y a deux types de fatigue, une fatigue du corps et une fatigue de l'esprit. Et ce n'est pas forcément l'arrêt de toute activité qui va te reposer. Un exemple très classique, une journée de randonnée dans la montagne peut être très reposante pour l'esprit. Grâce à l'activité physique qui donne du plaisir, à la beauté des différents paysages contemplés, à la joie du défi relevé, j'ai réussi à faire ma petite randonnée, etc. Et une bonne nuit de sommeil peut être ce qu'il faut pour reposer son corps et son esprit. Ici, il faut parler des vacances, des congés. C'est très important, mes frères. Excusez-moi de parler des choses tellement prosaïques, mais il faut parler des vacances et des congés. Dans notre combat spirituel, les vacances risquent d'être très dangereuses, car on baisse la garde. En fait, pour que cela n'arrive pas, les vacances doivent être ne doivent pas être synonymes de ne rien faire, mais des changements d'activité. On passe des activités d'obligation pendant la période de travail, des activités qui ont des contraintes, des délais, à des activités plaisantes, détendues, sans beaucoup de contraintes, tout en restant actif pour ne pas tomber dans l'ennui, justement. Donc, faire des bonnes vacances, des vacances saines, ce n'est pas ne rien faire du tout, mais plutôt changer d'activité, faire des choses plus légères, plus plaisantes, pour nous détendre et recharger les batteries pour la reprise du travail, de nos occupations en général. Attention, quand on parle d'activité, je ne veux pas dire l'activisme. Cela est très important, c'est la tentation contraire, car certains tombent aujourd'hui dans l'activisme. Ils ne s'arrêtent jamais, dans une frénésie constante. Cela aussi peut être un signe d'assédie, en tant que fuite de la réalité, par exemple. Il faut savoir se reposer, se détendre, s'amuser sainement, et il n'y a aucune honte là-dedans. Le mot d'ordre, vous l'aurez compris, est l'équilibre, qui vient de la vertu des tempérances, guidée comme toujours par la prudence, discernement, et pour nous chrétiens, enracinée toujours dans la charité. L'assédie, au contraire, peut être résumée en deux comportements extrêmes, c'est-à-dire déséquilibrés donc, je ne bouge pas ou je bouge trop. Comprenez bouger en tant que déplacement, mais aussi en tant que changement. Je ne change pas ou alors je change tout le temps, je n'ai pas de stabilité. Parlons maintenant de la tristesse. Il s'agit d'une émotion et de ce fait, on n'en a pas le contrôle. On ne décide pas en principe de ressentir la joie ou la tristesse, la colère ou la peur. On ne peut pas imposer une émotion à quelqu'un et pour cela on ne peut pas juger et on ne peut pas se juger si on est atteint par la tristesse. Le problème, c'est ce que l'on fera de cette émotion. On peut entretenir la tristesse, la cultiver, la transformer en mélancolie, faire de la tristesse un refuge, un psaume de l'attention de l'autre. Donc je suis toujours à m'apitoyer sur mon sort pour que les autres puissent avoir de la peine, de la compassion. Et c'est là qu'elle rejoint le vice de l'assédie. Pour nous chrétiens, la tristesse est toujours passagère. C'est d'ailleurs la différence entre repentir et remords. Le repentir, qui est très chrétien, nous fait sentir triste à cause du mal commis ou du bien non accompli, mais il cède la place aussitôt à la joie du pardon et d'un nouveau début. En revanche, le remords est le repli sur soi, il paralyse, il enlève toute joie. L'humilité de s'accepter et d'accepter l'histoire telle qu'elle est, et surtout la vertu d'espérance, nous l'avons déjà vu à l'émission consacrée à l'espérance, qui nous donne la confiance et l'abandon en Dieu et qui nous fait avancer vers la vie éternelle en traversant toutes les épreuves, ce sont les armes pour ne pas alimenter la tristesse. Donc, pourquoi ce vice de la cédille est capital, pourrait-on penser ? Bien, on dit bien qu'elle est la mère de tous les vices. Elle porte à l'accoutumance. On ne veut pas changer, on s'enfonce. Si en plus d'un vice quelconque, d'un péché quelconque, je suis atteint d'acédie, alors ça empire les choses, puisque là, je vais plus avoir la force de m'en sortir. Je vais m'enfoncer, je vais rentrer dans une certaine accoutumance. Et regardons maintenant, comme toujours, le lien avec les autres vices. Avec la luxure, il y a un personnage dans la Bible qui nous aide, c'est David. David, avant de pécher avec l'adultère, avant de pécher par luxure, il pêche par acédie. C'est le premier péché de David, parce que c'était, la Bible nous raconte, c'est le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, que c'était la saison où les rois partaient en campagne, partaient à la guerre. Et David n'est pas parti. Son armée est partie. Lui, il est resté à la maison. Donc, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. En plus, David fait une sieste trop longue. C'est la parole qui nous précise. C'est pas moi qui invente. Il se lève du lit au coucher du soleil, c'est-à-dire en fin d'après-midi. Donc, on imagine bien qu'il a fait une bonne longue sieste. Et donc, à partir de là, il va avoir la tentation de la luxure, il va commettre l'adultère avec Bathsabée, ensuite ça va l'amener à tuer Uri, mais tout a commencé avec cette acédie, vous voyez bien. Avec l'envie aussi, nous pouvons trouver une relation pour l'envie avec l'acédie, être jaloux de ceux qui travaillent, qui ont des choses, alors que par l'acédie, je ne fais rien et je n'ai rien donc en conséquence. La gourmandise, par acédie, par ennui, on va essayer de combler cette insatisfaction en prenant des choses de façon exagérée, comme nous avons vu pour la gloutonnerie gourmandise. Pour tout autre vice, accompagné de l'acédie, on s'accommode, on s'installe dans le vice, on ne bouge plus.
Père, avec tout ce que vous nous avez dit dans cette émission, on s'interroge aussi, parce qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de personnes souffrent d'un état dépressif, parce que tout ce que vous nous avez dit, ça fait vraiment penser aussi aux symptômes de la dépression. Alors, il y a peut-être une nuance à apporter entre un état dépressif, ou est-ce que l'acédie peut entraîner un état dépressif ?
Alors, rappelons-nous ce que nous disions la dernière fois à propos de la gloutonnerie. Et nous sommes un corps, un esprit, une âme, et donc il y a des maladies du corps, des problèmes chimiques comme la sérotonine, nous le savons, les neurotransmetteurs en général, des problèmes hormonaux avec la thyroïde, combien en souffrent. Nous avons aussi des problèmes, des maladies du psychisme humain. Donc les thérapies chez les psychologues peuvent nous aider. Et nous avons aussi les maladies spirituelles. Pour cela, on ne peut pas juger l'autre. On ne peut pas dire que l'autre est paresseux. Vous avez vu comment j'ai volontairement omis cette dénomination. Car on n'est pas compétent en toutes ces matières. Tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas psychiatre, tout le monde n'est pas psychologue. Donc le problème seulement qu'on a voulu souligner dans cette émission, c'est que l'on oublie souvent qu'il y a aussi des maladies spirituelles. Et on ne parle pas ici d'un simple besoin psychologique primaire de croire à quelque chose, parce que parfois même la science peut nous dire « oui, 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 croyez à quelque chose, ça vous fera du bien », comme dans un effet placebo. C'est pas du tout ça, évidemment. Si nous sommes dans le domaine de la foi, on ne parle pas ici de ce besoin psychologique primaire de croire à quelque chose, non. Mais de ce qu'on a une âme, et cette âme peut être malade. De plus, tout est lié en nous. Nous sommes des êtres indivisibles. Ce qui se passe dans l'esprit a un impact sur le corps et vice-versa. Donc, c'est-à-dire que le fait d'être malade dans son corps, dans le fonctionnement physico-chimique, physiologique, peut aussi arriver à notre âme, bien sûr, peut la blesser, peut l'affaiblir surtout. Imaginez, si vous allez essayer d'étudier quand vous êtes vraiment gravement malade, ce sera très difficile. Vous allez voir très vite comprendre comment l'âme et le corps sont liés. Pour ceux qui doutent de la liaison entre l'âme et le corps, il suffit d'essayer de travailler quand ils sont malades, ils verront très bien que l'âme et le corps sont étroitement liés. Mais la même chose, c'est le contraire. Quand notre âme est malade, notre corps en souffre aussi. Donc l'important, c'est de prendre ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'Église l'écologie intégrale, c'est-à-dire la vision intégrale de l'homme. Prendre l'homme dans tous ses aspects. Une anthropologie vraiment chrétienne prend soin du corps de l'homme. Quand je parle de corps, je parle aussi de la chimie du cerveau, bien évidemment, ça fait partie de notre physiologie, mais qui prend soin aussi du psychisme de l'homme et qui prend soin de la partie spirituelle de l'homme, qui n'est pas moins importante, au contraire. C'est la partie peut-être qui régit toutes les autres, puisqu'elle permet l'unification de l'être en seul homme, créé à l'image et ressemblance de Dieu, créé par amour, pour aimer, pour le bonheur, pour la communion avec son Créateur et avec les autres hommes et femmes que Dieu a mis à ses côtés. Alors avant de conclure cette série sur les vertus et les vices, je voudrais, comme je fais pour les autres vices, lire quelques passages de la Bible, quelques extraits sur la cédille. Je commence par le livre des Proverbes, au chapitre 6. « Va voir la fourmi, observe ses mœurs et deviens sage. Elle qui n'a ni magistrat, ni surveillant, ni chef, durant l'été elle assure sa provende et amasse au temps de la moisson sa nourriture. Jusqu'à quand resteras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? On peut dormir, on peut s'assoupir, on peut s'allonger les bras croisés, et tel un rôdeur viendra l'indigence et la disette comme un pillard. » Vous voyez, évidemment, nous sommes dans l'Ancien Testament, mais bien avant la cigale et la fourmi, vous voyez qu'il y avait déjà cette sagesse toute humaine dans le livre des Proverbes. Mais passons au Nouveau Testament. Quand Saint Paul dit aux Philippiens, au chapitre 2, « Ainsi donc, mes bien-aimés, avec cette obéissance dont vous avez toujours fait preuve et qui doit paraître non seulement quand je suis là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, travaillez avec crainte et tremblement. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. » Aussi bien, Dieu est là, qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. Agissez en tout, sans murmure ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tache, au sein d'une génération dévoyée, d'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière, en lui présentant la parole de vie. Donc, travailler pour son salut avec crainte et tremblement, nous dit saint Paul. Ensuite, c'est saint Paul lui-même qui va dire dans la deuxième épître aux Thessaloniciens que « Car vous savez bien comme il faut nous imiter, dit-il, nous n'avons pas eu une vie désordonnée parmi vous. Nous ne nous sommes fait donner par personne le pain que nous mangions, mais des nuits comme des jours nous étions au travail, dans la labeur et la fatigue, pour n'être à la charge d'aucun de vous. » Non pas que nous n'en ayons le pouvoir, mais nous entendions vous proposer en nous un modèle à imiter. Et puis, quand nous étions près de vous, nous vous donnions cette règle. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous entendons dire qu'il en est parmi vous qui mènent une vie désordonnée, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. Ceux-là, nous les invitons et engageons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler dans le calme et à manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. Pour vos frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Très intéressant, parce que Saint Paul donc invite fortement au travail, et en même temps nous savons qu'il y a des situations de maladies, nous avions parlé des maladies même psychologiques qui empêchent le travail, et donc il dit « vous frères, ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas de faire le bien ». Et je conclue avec la première lettre à Timothée, où Saint Paul va dire à propos des jeunes femmes qui, n'ayant rien à faire, elles apprennent à courir les maisons. Si encore c'était pour ne rien faire, mais c'est pour bavarder, s'occuper de ceux qui ne le regardent pas, parler à tort et à travers. Donc ça peut nous servir à tout un chacun, c'est-à-dire le fait d'être oisif peut nous amener bien sûr à vouloir regarder la vie des autres, à en parler, au bavardage, au ragot de tout genre. Donc c'est très important aussi le fait de s'occuper, ça nous aide à penser à notre vie, à notre histoire et à ne pas regarder trop la vie et les affaires des autres. Alors en conclusion, dans notre exposé, vous l'aurez remarqué, nous avons choisi un ordre particulier des vices capitaux. Cet ordre n'est pas anodin. Il va de l'orgueil à la sédie, c'est-à-dire des plus spirituels et diaboliques même, aux plus sensibles et charnels. D'autres auteurs préfèrent aller de la sédie à l'orgueil, c'est-à-dire de la porte par où les péchés s'installent à la racine des péchés en nous. Que l'on aille du père à la mère ou de la mère au père, c'est-à-dire de l'orgueil à la sédie ou de la sédie à l'orgueil, peu importe au fond, car nous avons vu que tous les vices sont dangereux et ont une armée derrière eux et qu'ils sont aussi en lien les uns avec les autres, ils s'attirent et s'engendrent l'un l'autre. Nous sommes appelés à ce combat spirituel avec les armes des vertus que nous l'avons vu, qu'elles soient des vertus données directement par Dieu, la foi, l'espérance, la charité, qu'elles soient des vertus que l'on peut pratiquer de par notre humanité, la prudence, la justice, la force, la tempérance, mais aussi les armes de la prière, de la parole de Dieu, des sacrements, de l'entraide fraternelle. En plus, dans ce combat, tu n'es pas seul. Dieu, la Vierge Marie, ton ange gardien, tous les anges, tous les saints du ciel sont de ton côté et veulent ta victoire. Ils te supportent dans le sens des supporteurs, vraiment, et en plus, ils t'aident à avoir cette victoire. Ils viennent à ton aide. La vie chrétienne, mes frères, n'est pas la question d'un effort surhumain. Ce n'est pas un moralisme, mais c'est la grâce que l'Esprit Saint nous donne de vivre dans le Christ et donc de lui ressembler de plus en plus. Cette grâce n'enlève pas ta liberté, mais elle demande une réponse libre et consciente de celui qui a connu l'amour de Dieu, le pardon des péchés et qui a compris qu'on ne peut pas être heureux qu'en Dieu seul. Bonne journée à tous.